Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour sur les ondes de CFAQ 88.3. Notre avant-dernière invité aujourd'hui pour parler de son nouvel EP Ravage qui est sorti il y a deux semaines, très exactement. On reçoit Julien Dumont au bout du fil. Salut Julien.
Salut Alex.
Et on a ce nouvel EP-là, mini-album qui marque peut-être un point tournant dans ta carrière, tu sauras me le dire. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce projet-là et faire évoluer ton son vers peut-être une fusion un peu plus rock, cordes et synthétiseurs?
Ouais, ben écoute, j'avais fait un premier album en solo en 2020, mais ça a donné qu'il est sorti la semaine que la pandémie a parti. Fait que ça a été tout rough pour les shows, ouais. Tout ça. Donc finalement, on a annulé les shows qui étaient prévus. Puis on s'est retrouvé avec le band, dans le fond, qui était supposé faire les shows en pas vraiment studio, mais dans notre local de pratique. Fait qu'on a passé le temps à commencer à faire des nouvelles tunes. Et puis, de fil en aiguille, bon, pas quelque chose qui se sont passées. Puis le processus a été un peu étiré. Donc, ça m'a donné du temps pour développer, justement, développer un peu plus l'approche sonore, justement, l'idée d'avoir des cordes, travailler avec Thomas plus les synthétiseurs, puis au niveau du vocal aussi, arriver à faire avancer un peu l'approche. Donc, ça a été un mal pour un bien, finalement. Puis ça amène ça ailleurs. Mais là, écoute, je suis déjà en train de trouver des nouvelles idées là, pour la prochaine étape. Fait que chaque étape est une étape importante pour dire là au niveau musical.
Ben, tu l'as mentionné, Thomas Augustin, qui a notamment aussi travaillé avec Malajub et Jésus les filles, avec qui tu as co-réalisé ton EP. En quoi cette collaboration-là a influencé peut-être la direction de Ravage et quelles sont peut-être les spécificités de son approche versus toi? Quelle serait sa signature sur ton EP?
Oui, ben écoute, c'est une bonne question. Thomas, il est vraiment extraordinaire, là. Il a du talent qui lui sort par les oreilles, donc il rend tout le monde meilleur autour de lui. Ça fait longtemps qu'on se connaît, donc on avait une relation quand même de proximité. Puis là, on avait travaillé ensemble pour le premier album aussi. Puis on se croisait souvent, on avait quand même une bonne complicité. Puis c'est quelqu'un avec qui je peux être totalement moi-même, en qui je fais totalement confiance aussi. Puis quelqu'un qui est capable de dire les vraies affaires quand il y a des trucs qui marchent pas ou j'arrive avec des idées qui sont un peu farfelues. Des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Donc il a été bon pour m'aider à canaliser mes idées. Puis c'est sûr qu'au niveau de tout ce qui est disons au niveau des arrangements, au niveau des autant au niveau des bacs vocales que des synthétiseurs, que même j'ai révisé beaucoup là, les arrangements de cordes avec lui. Donc, je te dirais qu'il amène quand même un backbone de structure, de théorie. Puis, pas nécessairement de théorie là, musicale, mais plus, il y en a vu d'autres, là, Thomas. Là. Il a beaucoup aidé différents artistes à développer leur son. Fait qu'il me challengeait, dans le fond, puis il me poussait à aller plus loin. Puis je te dirais que c'est un bon complice.
Très cool. Autour de la table, j'ai ma collaboratrice Marie qui va avoir des questions pour toi aussi, Marie.
Salut!
Super. Salut Marie!
Alors, le mini-album contient donc 5 titres, chacun portant des émotions assez brutes, allant de la colère au deuil, passant par la nostalgie, la libération, donc c'est vraiment, brut, comme j'ai dit. Comment décrirais-tu le processus créatif derrière ces chansons et puis derrière ces émotions principales qui les transportent?
Oui, ben bonne question. C'est sûr que le contexte, comme je disais un petit peu tantôt, là, de la genèse de cet album-là était dans une période où, toute la vie était sur pause, on était beaucoup isolé, tout ça. Donc, on était un peu tout le monde face à soi-même. Mm-hmm. Puis, il y a aussi, tu sais, le moment, je veux dire que ça, c'est un des, peut-être l'élément déclencheur, mais ensuite, ce qui m'a amené à l'approfondir, c'est un peu au moment où je suis rendu dans ma vie aussi. Je suis dans la quarantaine, donc, c'est un moment où on est un peu confronté aux choix qu'on a fait, puis on n'est pas tout le temps dans l'éternel recommencement. On construit, on assume, puis on réalise, on arrive à un point dans notre vie où on sait qu'il y a plein de choses qu'on pourra plus faire, là, mais qu'on a certains deuils à faire de dire bon ben j'ai fait des choix, j'assume ces choix-là, puis j'accepte le fait que d'avoir fait ces choix-là, ça va peut-être me fermer d'autres portes. Donc tu sais, on parle des fois le deuil, oui, le deuil de quelqu'un qui meurt, mais en même temps, ça peut être d'autres éléments aussi, le deuil de faire, justement de laisser aller certains éléments des certains rêves peut-être qu'on avait pour se concentrer sur d'autres. Et puis, mais de ça émerge éventuellement une direction, puis l'espoir d'un renouveau, puis une paix intérieure aussi, d'une certaine façon, de dire bon, ben j'assume, je me commets, j'ai décidé, j'ai pris cette voie-là, j'ai un deuil à faire, mais ensuite, let's go, on part, on y va. Puis il y a ce sentiment de libération-là qui vient éventuellement. Puis même jusqu'à un certain point, quand je parle de la nostalgie aussi, c'est de une fois que la paix est faite avec certains choix, le temps a passé, on repense à ces événements-là qui pouvaient être peut-être très souffrants ou torturants, mais qu'on y pense avec nostalgie en disant « bon ben, ça fait partie de qui je suis, puis je suis en paix avec ça, puis je le garde en moi, puis ça ne fait plus nécessairement mal, ça fait partie de mon vécu, de mon cheminement. » Ma réponse est un peu longue, excuse-moi.
Il n'y a pas de souci. Mais du coup, quand tu parles justement de souvenirs qu'il faut accepter en tant que part de soi-même, en quelque sorte, est-ce que tu penses aussi à du coup, la pièce phare du mini-album, Sous les lampadaires, qui évoque donc des souvenirs d'adolescence en banlieue, les promenades nocturnes, mais aussi des fugues sous la lumière des lampadaires?
Oui, oui, exact. C'est quelque chose que moi, très jeune, j'ai voulu me sauver de la banlieue. Je me sentais pas chez nous d'une certaine façon. J'ai voulu venir en ville, faire ma vie en ville, chose que j'ai fait, tout ça. Mm-hmm. Mais dans les dernières années, m'est remontée un peu cette, pas une nostalgie dans le sens que je voudrais pas retourner là, mais une espèce de paix intérieure avec justement là où j'ai grandi et puis ce sentiment-là de se promener en banlieue. Le soir, puis on dirait que c'est comme un film de zombies post-apocalyptique. Là. Il n'y a personne. On dirait qu'il n'y a plus personne nulle part. Tu te promènes, puis c'est comme si la ville t'appartient. Ouais. Donc, je dirais que c'est peut-être une nostalgie positive, tu sais, en fait, de ne pas « Ah, c'était mieux avant », plutôt de dire « Ben, je suis en paix avec ce passé-là parce que ça fait qui je suis aujourd'hui.
Mm-hmm. » On dit de Ravage que c'est un mix entre le post-punk des années 80, l'alternative des 90 et le indie des années 2000. Premièrement, est-ce que tu es d'accord? Et sinon, est-ce que en tant que musicien, il y a une bonne mixité à faire de tout ça? Ou en tout cas, comment ça s'est passé pour équilibrer peut-être le mix de tous les genres?
Ouais, c'est drôle, ça. C'est tout le temps une question. On dirait qu'à chaque fois que je réponds à cette question-là, après ça, je regrette ma réponse. Mais faut se commettre en même temps, c'est important. Puis, tu sais, je peux pas cacher le fait que, oui, j'étais enfant des années 80, donc cette musique-là a quand même fait presque partie de mon subconscient, je te dirais. Après ça, les années 90, ben, ça a été mon adolescence, plus l'affirmation de soi. Donc, c'est sûr que là aussi, au niveau de l'énergie, tu sais, un peu plus brute, un peu plus, comment je pourrais dire, là, avec des paroles, des fois, qui peuvent pas être lourdes, là, mais traiter des sujets un petit peu plus deep, mettons. Puis les années 2000, ben, c'est sûr que l'indie, ça a été au niveau de l'esthétique. Il y a des éléments aussi qui... Et plus au niveau de la forme qui me sont restés, mais en même temps, je suis quelqu'un qui écoute vraiment beaucoup de musique actuelle, puis on a la chance en ce moment que je pense que plus on avance, puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais moi, peut-être que je vois le verre à moitié plein, là. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de bonne musique qui se fait, surtout en plus au Québec, plus en plus de diversité dans la musique, différents sons qui existent. Donc, c'est sûr que ce que je fais, c'est probablement une synthèse, une somme de tout ce que j'écoute d'une certaine façon aussi. Mais ouais, tu sais, je pense qu'il y a quand même des éléments plus contemporains, en guillemets, justement, comme tu sais, de mélanger ça avec des arrangements de cordes, avec des synthétiseurs. Au niveau de la rythmique aussi, il y a Simon Bilodeau qui joue le drum là-dessus, qui vient de Sherbrooke, sur le temps passant. Et puis qui amène des beats, je trouve, qui sont pas nécessairement dans ces influences-là. Il amène comme une autre dimension au niveau des percussions puis des beats. Fait que, oui, en partie d'accord, mais je pense que il y a d'autres choses aussi là, à voir là-dedans, les jours espérés.
Donc là, on a un EP qui sort en fin d'année. Est-ce qu'il y a un album en préparation? Est-ce que tu as des shows qui s'en viennent pour 2025?
Ben pas de show pour l'instant. Okay. J'aimerais ça en faire. Pour l'instant, c'est pas possible, mais clairement que oui, éventuellement, ça va venir. Et puis, ben la composition continue. À voir si je vais sortir peut-être des pièces... une à une, parce que des fois, tout le processus de composition d'album, ça peut devenir, c'est comme si on garde à l'intérieur beaucoup de choses longtemps. Donc, peut-être que j'irai une approche un petit peu plus à la pièce, mais à voir. Mais de toute façon, l'inspiration est là, mais je ne sais pas encore exactement où ça va me mener. Puis j'ai un autre projet aussi on the side là, avec lequel on va probablement faire des shows bientôt. Là. Fait que ça se peut que je me ramasse sur un stage, mais pas nécessairement tout de suite avec ce projet-là.
Ça sera à surveiller à ce moment-là. Donc ça s'appelle Ravage, nouvelle EP qui est sorti le 22 novembre dernier. J'ai Vision du futur pour compléter l'entrevue, si tu peux nous en dire quelques mots en terminant.
Oui, bien, Vision du futur, ça, c'était un peu la phase anxiété, là, de dire quand, je ne sais pas si ça nous arrive tous, mais je pense que ça arrive à certaines personnes, des fois, de se sentir un peu dans un cul-de-sac, là, au pied du mur, comme si le sol se dérobe un peu sous nos pieds, et puis, c'est des moments qui passent. En fait, la chanson, c'est un peu ça, de dire que oui, parfois, on peut être pris par le stress, l'anxiété, mais en même temps, ça finit par passer. Donc, cette chanson-là, ça a été un peu aller au bout là, de ce sentiment-là d'anxiété pour pouvoir m'en libérer, justement. Puis je trouve que ça fait une belle suite avec la pièce après qui est Quitter le sol, qui est vraiment une pièce qui est dans la libération puis dans l'esprit positif. Là. Mais Vision du futur, là, c'est j'étais allé au fond là, de ce sentiment-là d'anxiété qui me prend parfois.
Julien Dumont, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben, merci à vous deux. C'était super fun.
Vision du futur sur les ondes de CFAQ 88.3.